Les livres. Sélection de Radio Silence.org. Ici Périnée de Clé. En ce jour dédié à Mercure, le dernier du mois d'auguste, de l'an de grâce 2011, à tous présents et à venir qui voulaient bien nous écouter, salut. Un paradoxe majeur de notre société actuelle, la société de l'enfant devenue l'aboutissement d'un projet parental, c'est-à-dire en fait maternel. Au lieu que d'être un don de Dieu comme précédemment, ce paradoxe donc, c'est la complète opposition entre la conception de l'enfant idole et la quasi-nullité des parents en matière d'éducation-instruction, pourtant si primordiale pour le bonheur véritable du dit enfant. L'on répond que cela est dû à l'ignorance des parents. Ignorance due notamment à la difficulté de s'informer vraiment dans ce domaine de l'instruction publique qui depuis un demi-siècle est en état chronique de réforme. Et il est vrai que les lois et autres textes régissant la matière de l'enseignement en France notamment sont innombrables et rédigés dans un style rebutant, abscon, pédantesque, un vrai maquis, les senteurs en moins et l'ennui en plus. Tout ce qui, d'autre part, a trait désormais à l'instruction publique est aussi et surtout l'objet d'une désinformation systématique particulièrement efficace. L'uomo qualunque, le citoyen ordinaire, est incapable, dans ces conditions, de se faire une conviction, de parvenir à la vérité, au moins partielle. Heureusement, des livres ont été publiés ces dernières années sur ce sujet crucial de l'enseignement. Plusieurs sont remarquables, de grande qualité. Aucun, cependant, n'apparaît aussi complet, clair, d'accès aisé et d'un emploi pratique que le livre de Claude Meunier-Berthelot « Bas les masques, de la désinformation sur l'école » aux éditions des Trianon. Ouvrage particulièrement actuel puisque paru fin 2010. Et étant observé que Madame Meunier-Berthelot, juriste de formation, la meilleure des formations, parle en particulière connaissance de cause. Elle a fait toute sa carrière dans l'éducation prétendument nationale, où elle a enseigné en classe terminale et préparatoire. L'auteur commence, et avec raison, par un rappel historique. Elle évoque ainsi, à très juste titre, la révolution dite française, la grande, si l'on peut dire, la seule vraie révolution qui dure toujours. Pour la première fois en France, l'État entend avoir le contrôle de la formation de la jeunesse, surtout masculine. Les régimes ultérieurs, tous, l'Empire et les Républiques, les régimes ultérieurs, tous, à forte teneur idéologique, feront de même, tout en veillant à avoir un enseignement de qualité, de très haute qualité. La Troisième République, cependant, va commencer à sacrifier la qualité de l'enseignement de l'histoire, la vérité historique, à la vulgate républicaine. Avec la Quatrième République, la situation va se dégrader. Dans les années 1944-47, profitant du désordre et du climat arbitraire de la Libération, la gauche communo-socialiste réussit à faire confier à deux intellectuels marxistes, messieurs Langevin et Vallon, la mission de repenser, SIC, tout le système éducatif français, pourtant réputé pour sa réussite dans le monde entier. De leur rapport déposé en 1947 procèdent toutes les réformes effectuées depuis, de Capitan à Châtel, et la dégradation continue de notre enseignement. Dégradation, comme le relève Madame Meunier-Berthelot, si manifeste qu'elle a fini par être perçue par l'opinion pourtant anesthésiée et que les pouvoirs publics reconnaissent, au moins partiellement, les faits, faute de pouvoir nier ce qui n'est pas niable. Cependant, les ministres successifs, il y en a eu, et l'actuel hôte de l'Élysée, s'ils se répandent en propos à plaire aux parents d'élèves, propres à plaire aux parents d'élèves, prennent des mesures en opposition totale avec les intentions annoncées et les promesses faites. Promesses qui n'engagent que ceux à qui elles sont faites. Tel est le constat fait par l'auteur, dont le travail consiste, d'une part, à décrire par le menu la désinformation dont se rendent coupables les hommes du pouvoir, puis à révéler la situation tragique, apocalyptique, où se trouve réellement l'école en France, du fait des réformes successives. Pour cela, elle met bien en relief les motifs véritables de la politique suivie en matière d'éducation depuis 1944-47. La désinformation s'agissant de l'école, c'est-à-dire la forme la plus raffinée du mensonge de l'imposture, est évidemment destinée à cacher cette vérité aux gens, aux électeurs. Elle a aussi pour objet premier de tromper d'abord sur les objectifs réels des réformes imposées ou à venir, déjà imposées ou à venir. Les réformateurs au pouvoir et leurs inspirateurs, ainsi le fameux monsieur Mérieux, éminence grise du ministre Allègre, affirment qu'ils ont l'objectif d'instruire les enfants qui leur sont confiés. Ils ne peuvent pas dire autrement, c'est ce que tous les parents normaux attendent de l'école. Mais en réalité, ce qu'ils recherchent, avec une opiniâtreté exceptionnelle, presque satanique, ce n'est pas d'instruire les enfants, ce serait trop beau, mais bien de les formater, de socialiser les masses, comme ils disent, sic, c'est-à-dire d'en faire des citoyens dociles qui, maintenus dans l'ignorance, seront faciles à maintenir dans la dépendance, conformément à l'idéologie marxiste. Il s'agit de réaliser ainsi une véritable révolution et de précipiter la mutation de l'institution scolaire en centre d'activité et de loisirs, avec suppression de l'étude des fameuses humanités, mise au point dans les collèges de la Compagnie de Jésus dès le XVIe siècle, il s'agit de la fameuse Ratio Studiorum, et que l'auteur qualifie très justement ces humanités de marqueurs identitaires. La formule est parfaite. Ainsi pourra être formé un individu apte à être aisément manipulable. Même des informations quant au prétendu rôle unificateur de l'école de la République, alors qu'au contraire, la décentralisation actuelle favorise l'éclatement de cette école et se joint à l'éclatement de la nation en régions. Ou encore sur les méthodes d'apprentissage, les fameuses méthodes d'apprentissage par les méthodes de lecture globale ou semi-globale et apparentées, même si on les qualifie de visuelles, phonétiques, par hypothèse, et qui ne sont nullement abandonnées comme il est affirmé officiellement. Pour pratiquer une telle désinformation, les ministres et leurs entourages font preuve d'une imagination inouïe et de ruses machiavéliques, ils s'y entendent, notamment s'agissant de la désagrégation institutionnelle du lycée, du fameux lycée républicain. Ayant ainsi décrit avec minutie, de façon exhaustive, l'énormité de l'imposture désinformationniste sur l'école, Claude Meunier-Berthelot présente le tableau de la réalité de l'enseignement qu'elle peut résumer ainsi. Ouvrez les guillemets. Il n'y a plus d'éducation nationale en France, ajoutant ensuite de ce constat, il faut la reconstruire. L'auteur établit tout d'abord que la pléthore, en apparence insensée, de réformes, bien loin de porter la marque de l'incohérence, masque au contraire, et c'est là le terme juste, masque, une terrifiante cohésion d'ensemble. Depuis 50 ans, l'éducation nationale est engagée dans un processus de révolution lente mais sûre que les enseignants honnêtes, majoritaires, n'ont jamais eu le pouvoir de contrer et qui poursuit inlassablement le but de vider l'enseignement de sa mission d'instruction et de socialiser les masses. Ces réformes ont été étalées dans le temps selon une méthode de type homéopathique pour ne pas risquer un trop grand mécontentement. Cette entreprise de subversion a suivi le processus suivant, parfaitement analysé par Mme Meunier-Berthelot. Dans les années 50, adoption des nouvelles méthodes pour les enseignements de base, ce qu'ils appellent dans leur jargon prétentieux les fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, compter. Ces méthodes nouvelles sont maintenues, encore maintenant, en réalité, malgré leur nocivité reconnue et proclamée, notamment quant à leur influence sur la déstructuration des circuits cérébraux. Pour ce que, justement, écrit l'auteur, ils empêchent les enfants d'avoir accès à la connaissance. Deuxième phase, dans les années 60-68 surtout, c'est l'esprit même de l'institution scolaire, l'aspect moral de l'éducation, qui sont remis en cause. Démantèlement de l'autorité du maître d'un côté, maître désormais privé de chair et pour qui l'on ne se lève plus quand il entre en classe, abandon de toute exigence, de surpassement de soi, de régularité, de travail, d'effort personnel pour les élèves. Troisième, dans les années 70, la si néfaste réforme Abi, instituant le collège unique, l'indifférenciation, collège unique de la 6e à la 3e, avec baisse considérable du niveau de l'enseignement et de la qualité des professeurs recrutés. Quatrième, fin des années 80, création par M. Jospin des IUFM, les néfastes instituts universitaires de formation des maîtres, pour un formatage renforcé. Enfin, fin des années 90, le stade final, ou comme l'écrit si bien Mme Meunier Berthelot, la lutte finale, la réforme Allègre, parachève la véritable révolution de l'institution scolaire en la faisant muter du système éducatif au lieu d'éducation, instruction. Elle est mutée en un ensemble de centres d'activité où l'enfant construit, SIC, ses savoirs en tout à travers des activités choisies par lui, sans but défini et sans aucun contrôle organisé. Le maintien de la popularité de M. Allègre, le ministre le plus néfaste probablement depuis l'origine, apparaît ainsi comme un malentendu hallucinant. S'il a dégraissé le mammouth, ce n'est pas de ses abus énormes et multiples, mais bien de ce qui y subsistait encore d'enseignement traditionnel. Ce sont d'ailleurs les principes retenus dans la réforme Allègre qui structurent, si on peut dire, la fameuse refondation actuelle de l'enseignement que M. Sarkozy est en train d'imposer, c'est-à-dire en réalité une véritable déstructuration, une destruction de tout le système d'enseignement, à savoir renforcement du principe de démocratisation dans l'enseignement, véritable absurdité. En fait, il ne s'agit pas du tout de mettre à la portée de tous un enseignement de qualité selon ses capacités, ce qui serait louable, ce qui était le rôle de tout l'enseignement depuis l'origine des temps, mais bien en supprimant tout élitisme, ne permettre à personne d'y parvenir, afin de maintenir le peuple dans l'ignorance toujours. C'est sur ce modèle parfait d'obscurantisme que repose la refondation actuelle de l'école. Autre principe, mettre l'élève, alors c'est le jargon pédant des pédagogistes, comme dit Madame Meunier-Berthelot, mettre l'élève au centre du système éducatif pour qu'il construise lui-même et tout seul ses savoirs. C'est là un principe fondamental, on pourrait presque dire le principe fondamental, de l'idéologie marxiste du plan Langevin-Wallon. Un principe résolument constructiviste. Il y a une école de philosophie qui porte ce nom. L'on construit son savoir, l'on construit sa personnalité, sans tenir aucun compte du réel ni de l'ordre de la création. Corollaire du précédent, le principe d'interdisciplinarité. L'enfant construit son savoir à travers plusieurs activités de caractère ludique qu'il choisit librement et par lesquelles il est censé s'instruire dans plusieurs disciplines à la fois, histoire, mathématiques, français, langue étrangère, avec à terme la disparition programmée et complète des cours magistraux. L'enseignant devient un ex-enseignant, il devient un animateur, encadreur des enfants. Dernier principe, une conception élargie de l'éducation, associant au personnel de l'éducation nationale, en principe des professionnels, des gens d'autres origines, venant du ministère de la Culture, par exemple, ou de secteurs privés. L'auteur peut conclure en rappelant que les réformateurs ont ainsi broyé tous les principes éprouvés antérieurs. Toutes les dispositions prises, peut-elle écrire, résultent d'une seule idée, mettre en œuvre le constructivisme des savoirs et de la personnalité en s'affranchissant de toutes les données du réel et de la création. Elle le répète parce que ceci est absolument fondamental, capital. Ceci dans l'intention, en réalité, de détruire définitivement l'école, maîtresse du savoir et de la formation intellectuelle de tout un peuple. Il s'agit bien, en faisant table rase du passé, nous retrouvons la volonté des Lumières du XVIIIe siècle, il s'agit bien, c'est bien d'une rupture de la chaîne des savoirs qu'il s'agit pour décérébrer les masses et en faire un troupeau, pourrait-on dire, d'ilotes ivres, pratiquement tombés dans l'infra-humain et totalement manipulables. Il s'agit là, comme l'écrit Madame Meunier-Berthelot, d'un crime contre l'intelligence, d'un crime contre la civilisation. Cette conclusion contient d'ailleurs le témoignage précieux d'une institutrice sur les principes pédagogiques qu'elle a reçus dans son école normale d'instituteurs, à savoir d'abord le constructivisme, ensuite apprendre de manière toujours ludique en s'amusant, ensuite, respecter l'autonomie de l'enfant, surtout le maître, l'ex-maître, ne doit pas, à aucun prix, constituer un référent pour l'enfant. Le recours à son vécu, on ne va pas chercher ailleurs, tout doit venir de l'enfant. C'est le corollaire de tout ce qui a été dit. Cette jeune institutrice confirme donc tout ce que Madame Meunier-Berthelot a établi et qu'elle a résumé en une phrase. Le système a généré ainsi la destruction de toute idée de transmission du savoir. Accablant, apocalyptique, ça serait à désespérer. D'autant plus que les enseignants restés normaux, groupés dans le SLECC, c'est-à-dire un groupe de travail pour retour aux méthodes de toujours, malgré les résultats excellents qu'ils ont eus, pratiquement, ils sont paralysés, ne pourront pas étendre leur expérience par le fait du despotisme ambiant dans lequel ils œuvrent. Ce n'est donc pas à l'intérieur de l'éducation nationale qu'on peut agir. Mais ce retour peut au contraire pleinement être assumé et assuré par l'école entièrement libre. Très intelligemment et avec un esprit pratique et réaliste, Madame Meunier-Berthelot complète son livre par une touche d'avenir, une touche d'espérance. Comment reconstruire l'école et selon quels principes? À très juste titre, elle exhorte pratiquement à adhérer à une voie d'avenir extraordinaire, l'admirable fondation pour l'école d'Anne Coffinier, qui fournit tous les éléments requis pour l'ouverture et l'administration d'une école vraiment libre, c'est-à-dire existant hors de tout contrat. On ne peut mieux faire, en imposant toutefois, corrélativement, au pouvoir public d'instituer enfin le bon scolaire, ou chèque éducation, attribué à chaque famille comme une exigence absolue d'équité ou de liberté. Le travail de Claude Meunier-Berthelot donne un livre passionnant, d'une érudition sans faille, rigoureux et lucide, d'une lucidité terrifiante à premier abord, mais salubre, salvifique en réalité, car seule la vérité permettra d'agir, nous délivrera. Claude Meunier-Berthelot n'a pas fait seulement un magnifique travail intellectuel, elle fait mieux, elle tient une place de choix dans le combat qu'il nous faut mener. Il faut donc l'aider, lire, et s'il se peut relire, avoir toujours présent à l'esprit, dans les conversations, dans les discussions, ce livre, en parler, l'offrir, le faire acheter, c'est un devoir élémentaire, notamment pour la jeune génération. nous nous battons le dos au mur. Les Romains auraient pu dire « Hannibal ad portas ». Madame Meunier-Berthelot est d'autre part l'invitée de Radio Silence Org à un dîner-débat au Café Le Poussin, 2 rue Poussin, le jeudi 13 octobre prochain, 2011, à 19h30. Il faut absolument venir, venir très nombreux. L'invité et le sujet en valent la peine, et l'on n'y rencontre que des gens de cœur et d'esprit. Merci de nous avoir écoutés avec patience. À une autre fois, quand cette période pré-apocalyptique nous protège particulièrement la Très Sainte Vierge, modèle et reine des éducatrices, et qu'elle favorise particulièrement le magnifique combat de Claude Meunier-Berthelot, bien sûr, mais aussi Anne Coffinier, Anne Darmaillet et toute personne œuvrant à ressusciter une école digne de ce nom. Et hec ad majorem Dei gloriam.